sa chair mazoche, le lait de Caïn, 1884, un testament. La pire pauvreté, c'est l'avarice du riche. Un testament insensé, un testament qui crie contre le ciel, avait coutume de dire le notaire Batschkok, chaque fois qu'il était question des volontés dernières de la baronne Bromirska. Jamais un être sorti des mains de Dieu et doué d'une dose quelconque de bon sens ne fit d'absurdité semblable. Il y a de quoi rire, prendre pour héritier un quadrupède, mais il y a de quoi mourir de rire. Le notaire, par parenthèse, ne laissait jamais échapper l'occasion de rire avec bruit. Cette affaire du testament mérite du reste d'être racontée. Dans le chef-lieu d'un cercle de la Galicie occidentale, vivait, il n'y a pas bien longtemps, un employé polonais du nom de Gondola, qui, moins par son mérite qu'à force de persévérance, il comptait plus de 40 années de service, finit par être nommé commissaire du cercle. Sa femme, une grande polonaise, maigre à faire peur, lui avait donné une fille qui eut d'abord la mine d'une petite bohémienne, promettant à peine de devenir gentille, ce qui ne l'empêcha point d'être à 10 ans tout à fait supportable, piquante à 14 ans, et vers l'âge de 16 ans une beauté. Gondola lui-même eût été dans l'ancienne Rome un gladiateur de bonne mine, et à Potsdam un de ces grenadiers dont Frédéric Guillaume se plaisait à immortaliser les larges épaules en ajoutant leur portrait à la galerie de château. Sa nuque était celle d'un taureau, ses mains eussent étranglé le lion de Némée ou roulé un plat d'étain comme une gaufre. Quant à sa tête, elle eût fait honneur au sultan Soliman. Cette inquiétante vigueur était tempérée par l'expression mielleuse de la physionomie. Personne n'avait le sourire plus humble, l'échine plus souple que M. Gondola. Bien qu'il parût ne jamais se soucier de l'avenir et tenir uniquement à jouir de la vie en dépensant ses revenus avec toute l'élégante légèreté d'un vrai gentilhomme polonais, il s'entendait à profiter de sa position et à remplir ses coffres. Sa femme et sa fille, la Panna Varvara, l'aidaient de leur mieux. Elles étaient ingénieuses à découvrir toujours de nouvelles ressources, mais il les surpassait encore en habileté. Avant 1848, les plaintes des paysans contre leurs propriétaires remplissaient les bailliages galiciens. Et toutes ces plaintes, sans exception, passaient par les mains de M. Gondola. Il est donc naturel que les gentilshommes lui fissent leur cour. On ne lui donnait pas le bonjour, on se jetait à ses pieds en paroles, cela va sans dire. Mais il comprenait ces paroles à la façon de certaines dames de théâtre qui tendent la main quand on leur offre son cœur. S'agissait-il par exemple d'un paysan à demi-mort, assommé par un seigneur qui prenait tous les saints de l'Église romaine à témoin de son innocence, M. Gondola était bien trop poli pour rudoyer le coupable. Non, il lui offrait un fauteuil et se contentait de faire observer en soupirant que c'était là une mauvaise affaire sur laquelle se prononceraient les tribunaux. Là-dessus, le tyran de village croyait déjà sentir autour de son cou les deux grandes mains du commissaire. Il rougissait, perdait haleine, suppliait, implorait, mais sans réussir à émouvoir ce représentant intègre de l'autorité. « Vous avez là, » commençait d'un air indifférent M. Gondola, « des chevaux superbes et une jolie voiture. Que vous êtes heureux. Oh, pauvre diable de ma sorte, n'a jamais l'occasion de conduire en si bel équipage sa femme et son enfant. » Cette simple réflexion produit l'effet désiré. Depuis lors, la voiture est toujours aux ordres de M. Gondola. Il s'en sert pour aller lever ses impositions. Sa femme et sa fille en profitent pour des parties de campagne. Mais cela ne suffirait pas à désarmer M. Gondola. Chaque fois que le gentilhomme vient en ville, il lui fait l'honneur d'accepter un bon déjeuner. L'aubergiste juif offre les mets les plus exquis, les meilleurs vins de sa cave, et le repas terminé, Gondola pousse la délicatesse jusqu'à sortir dans la rue pour laisser le gentilhomme régler la note. Madame Gondola montre la même délicatesse quand le seigneur envoie une provision de farine, de terre, de pommes de terre, de beurre, de gibier ou un petit cochon. Elle compte scrupuleusement si le nombre des objets envoyés s'accorde bien avec l'énumération qu'en a faite le donateur, ne manque jamais de demander au commissionnaire s'il appartient à la société de tempérance, le loue si sa réponse est affirmative, l'exhorte sévèrement dans le cas contraire, mais sous aucun prétexte ne lui offre un verre de bière. Le donateur vient-il rendre visite à ces dames? Elle garde un silence digne. C'est à peine si Madame Gondola se défend quand il baisse sa main dure et osseuse. Enfin, monsieur le commissaire se décide cependant à trouver que le paysan a exagéré les sévices dont il prétend avoir été victime, et il le renvoie avec un peu d'argent, ou très peu, pour se faire soigner. Le cours de la procédure se modifie si le plaignant a la bonne idée d'amadouer la justice par le don d'une vieille poule ou d'une soixantaine d'œufs. Monsieur Gondola est trop équitable pour mépriser les petits, et le gentilhomme s'aperçoit à sa prochaine visite que son affaire va mal tourner, à moins qu'il ne s'assure de l'intervention des dames, laquelle est gagnée d'ordinaire par deux robes de soie de lion. Il peut arriver encore qu'un juif riche demande à Monsieur Gondola l'autorisation d'enterrer, selon la religion de Moïse, avant le coucher du soleil, quelques membres de sa famille qui vient de rendre l'âme. C'est contraire à la loi. Celui qui est chargé de la faire exécuter le renvoie sans miséricorde, la première fois du moins. La seconde fois, on l'écoute en se moquant de lui et du prix qu'il offre pour obtenir une dispense. Soyez sûr que le juif reviendra une troisième fois, tremblant comme la feuille, comptez les 50 ducats qu'exige le commissaire. À peine aura-t-il le temps de soupirer, qu'on en exigera 100 autres pour l'hôpital ou l'orphelinat ou toute autre maison de charité. S'il est marchand, il sera permis d'envoyer aux dames de la toile des étoffes, que sais-je. Cette famille n'est pas fière et n'a garde de rien dédaigner. Du reste, M. Gondola fait apporter de temps en temps, au grand jour, dans sa propre cuisine, le bois destiné au bailliage. Il bourre ses poches de papier, de plumes de cire à cacheter et autres bagatelles dont regorgent les bureaux, sans oublier par-ci par-là une bouteille d'encre, bien qu'on écrive peu dans sa maison. Mais sa femme sait faire de tout un commerce lucratif. Néanmoins, il n'y a jamais d'argent au logis, le commissaire ne perdant pas de vue les devoirs de représentation qu'entraîne son emploi et aimant pour son compte à vivre comme un pacha. La Panna Varvara avait grandi dans le milieu que nous venons de décrire. En outre, elle entendait chaque jour appeler gueux quiconque ne possédait rien. Elle voyait son père se courber jusqu'à terre devant tel gens riches qu'il désignait dans l'intimité de la famille, toute porte close sous le nom de coquin. Était-il question d'un étranger? Qu'est-ce qu'il a? Demandait M. Gondola. Une fille se mariait-elle? Quels sont ses biens? Le premier jouet de Varvara enfant avait été deux ducats tout neufs que son père, revenant d'une tournée, lui jeta sur les genoux. Varvara n'aimait pas la musique. On n'entendit jamais fredonner une chanson. Les romans ne l'attiraient guère, la poésie l'ennuyait. Elle apprit au contraire avec plaisir les langues. Après l'allemand, le français, puis le russe et même un peu l'italien. À 18 ans, Voltaire était son auteur favori. Elle le lisait volontiers. Mais jamais un caractère noble, une aventure touchante ne fixait son attention. Ce qui la frappait, c'était le tableau de la puissance, du faste. Aucune illusion, aucune fantaisie ne dora jamais sa jeunesse. Elle ne connut pas non plus, en revanche, ces amers désenchantements qui attendent à son début dans la vie une âme confiante. Elle ne prit jamais un joli garçon d'esprit pour un demi-dieu, ni un tronc d'arbre éclairé par la lune pour une colonne d'argent. Pour elle, une forêt est un lieu où l'on coupe du bois, et le bluet des blés est une mauvaise herbe. Bref, cette fille avisée voyait les choses comme elles sont. Il était impossible au plus fin de la tromper par un masque. Elle reconnaissait aussitôt le vrai visage qu'on lui cachait. Ce qui l'amusait singulièrement, c'était l'inconstance des hommes en général, qui, sans cesse occupés à dissimuler leurs vices, à feindre des vertus qu'ils n'ont pas, à paraître meilleurs et plus beaux que la nature ne les a faits, sont toujours disposés cependant à prendre le fardeau d'autrui pour les couleurs ingénues de la santé. Sûre de sa propre supériorité, Barbara était résolue à profiter sans miséricorde de la sottise humaine, afin d'acquérir une haute position sociale. Mais elle n'était pas encore fixée sur le choix des moyens. D'abord, elle essaya son pouvoir sur ses parents, qu'elle dominait à l'égal l'un de l'autre, puis sur les jeunes officiers employés du bailliage, qui étaient entre ses mains comme autant de moineaux prisonniers dans celle d'un enfant. Elle fit de nombreuses conquêtes, mais sut fuir tout ce qui ressemblait à une intrigue amoureuse. Son but était un riche mariage, et elle n'avait pas tardé à découvrir avec sa perspicacité ordinaire que les filles romanesques se marient rarement. Elle passait pour vertueuse et même pour prude, mais sa vertu n'était que de la froideur. Les scènes sanglantes de 1846 lui fournirent l'occasion de montrer toute la force de son caractère et l'inflexibilité de son cœur. L'insurrection polonaise contre l'Autriche avait été promptement suivie de celle des paysans contre leurs seigneurs. Des massacres épouvantables, qui commencèrent dans les provinces de l'Ouest, eurent lieu au nom de l'empereur pour qui le peuple, s'armant de faux et de fléaux, avait pris parti. Beaucoup de gentilshommes durent se réfugier avec leurs familles et leurs serviteurs dans les villes de province, sous la protection de ce même gouvernement qu'ils avaient entrepris d'abattre. La révolution, cependant, n'était pas encore domptée. Les troupes autrichiennes avaient abandonné aux insurgés Cracovie et Pogolce. Un corps polonais avançait sur Tarnow. L'agglomération dans les chefs-lieux de tant de gens qui avaient en somme pris part à la conspiration parut dangereuse aux baillis, et ils s'empressèrent d'éconduire au plus vite ces réfugiés qui, les circonstances aidant, pouvaient si facilement se changer en rebelles. Les malheureux seigneurs polonais assiégeaient les bailliages et se présentaient en suppliant chez les employés desquels ils attendaient un peu de compassion ou qu'ils croyaient corruptibles. Ce fut une époque prospère pour M. Gondola. Il trafiqua par tous les moyens imaginables de la vie menacée des nobles. Le baron Bromirski, un vieux roué ridicule, qui, poursuivi par ses paysans, avait mis sa perruque à l'envers et tremblait de tous ses membres, fut le premier à se racheter en payant 1000 ducats. À ce prix, il trouva dans la maison du commissaire une cachette sûre et commode. D'autres suivirent son exemple et obtinrent la permission de rester en ville. Le 26 février, le capitaine du cercle envoya Gondola avec un gendarme et un détachement de chevaux légers à quelques 1000 de là pour recevoir des mains des paysans un certain nombre d'insurgés prisonniers. Vers le soir de ce même jour, le seigneur Kutchowski de Baranov entra précipitamment chez le commissaire. Lorsque Madame Gondola lui eut appris que son mari ne viendrait que le lendemain, il laissa tomber sa tête sur sa poitrine en s'écriant avec angoisse « Alors nous sommes perdus, personne ne peut nous sauver !» Barbara entreprit de le consoler. Je suis prête à remplacer mon père de mon mieux, dit-elle, moyennant 1000 ducats. Nous vous cacherons volontiers. Mais il ne s'agit pas de moi seul. J'ai laissé là-bas ma femme, ma mère et mes enfants qui courent les plus grands dangers. D'ailleurs, où voulez-vous que je prenne tant d'argent? Pour faire des révolutions, les Polonais trouvent toujours de l'argent, insinua d'un ton railleur Madame Gondola. Barbara réfléchissait. Écoutez, dit-elle, j'irai avec vous chercher votre famille, que je préserverai de tout mauvais traitement. Fixez vous-même la somme que vous pouvez donner. 100 ducats? Oh, les deux femmes haussèrent les épaules. Oh non, je ne me dérangerai pas à moins de 500, dit Barbara. Oh, nom de Dieu, venez, s'écria Kurchosowski. Peut-être ma belle-mère pourrait-elle compléter la somme. Barbara s'enveloppa de fourrure, prit un gendarme avec elle et monta dans le traîneau du seigneur, qui se dirigea aussitôt vers Baranov. Il faisait nuit quand ils arrivèrent. La seigneurie était entourée de paysans, les femmes tenant des torches de résine dont la rouge lumière projetait comme des taches de sang sur les faux de leurs maris. Grâce à la présence de Mademoiselle Gondola et du gendarme, Kluczowski put gagner, sain et sauf, la salle du rez-de-chaussée où était réunie sa famille. « Voici, dit-il, un ange qui vient à notre secours. » Sa femme se jeta, éperdue de reconnaissance, dans les bras de la jeune fille. Tandis qu'elle la couvrait de baisers et de bénédictions, Kluczowski s'entretenait à voix basse avec sa belle-mère. « Hélas, dit-il enfin d'une voix brisée, bon, il est impossible de vous procurer tout l'argent que vous demandez. Bon, prenez les 100 ducats, ayez pitié de nous. » Mais l'ange resta inébranlable. Mais s'il en est ainsi, je ne puis rien en votre faveur. Mon père m'adresserait des reproches. Une lourde responsabilité pèse sur lui. Les Polonais gagnent du terrain. Il est nécessaire de faire un exemple par-ci, par-là. Je prendrai l'argent pour la peine que j'ai eue et je veux bien encore exhorter les paysans. Mais on égorgera ces innocents, s'écria le seigneur hors de lui. Je n'y puis rien. Vous signez donc notre arrêt de mort. Kluczowski se jeta sur un fauteuil, le visage dans ses mains. Sa femme à genoux devant Barbara lui demandait grâce comme à un juge. Mais la digne fille de Gondola ne répondit que par une grande révérence de cour et sortit impassible. Dehors, elle adressa, selon sa promesse, quelques mots aux paysans pour les calmer, puis elle remonta dans le traîneau avec le gendarme. Le lendemain, on sut que les propriétaires de Baranov, grands et petits, avaient été torturés puis mis à mort par les paysans. « Ma foi, dit Barbara, oh, je regrette d'avoir envoyé leur traîneau. À qui maintenant va-t-il servir ?» Après l'exemple donné par cette fille énergique, nul ne refusa plus de se soumettre aux prétentions de la famille Gondola. L'insurrection éteinte, une nouvelle occasion de rapine ne tarda pas à se présenter. Les paysans qui avaient combattu au nom de l'empereur refusaient désormais de se soumettre aux robots exigés par les nobles rebelles. Le gouvernement essaya d'avoir raison des résistants de ses amis par la douceur d'abord, puis par la force. L'intelligent commissaire voyageait d'un village à l'autre, vivant comme un prince chez les seigneurs ou chez leurs mandataires, envoyant à sa femme des charrettes pleines de provisions et déployant à l'égard des paysans, selon le plus ou moins de générosité du propriétaire, toute son éloquence depuis la douce réprimante jusqu'au bâton. Les paysans du baron Bromilski furent les premiers à reprendre leurs travaux, et le baron n'oublia jamais le service que M. Gondola lui avait rendu, sans doute parce qu'il l'avait assez chèrement payé. Il resta l'ami intime de la famille, promena les dames en voiture, leur donna leurs fêtes champêtres, les accompagna l'hiver à Lemberg, où il payait leurs emplettes et se montrait chaque soir avec elle au théâtre. La robe de Varvara ne pouvait l'effleurer sans qu'il tressaillît. Chaque fois qu'il baisait la blanche main de cette belle personne, il poussait un soupir qui en disait long. « Bromiski est amoureux de toi, » dit un jour la mère à sa fille. « Vous croyez m'apprendre une nouvelle ?»« J'y ai déjà mûrement réfléchi, » continua la matrone. « Tu pourrais faire pis que de le prendre pour amant ?»« Vous voulez dire pour mari ?» répliqua la panna Varvara. Et l'épouse du commissaire ouvrit de grands yeux. Au mois de mars 1848, chaque courrier apportait de Vienne des nouvelles inquiétantes. Le conducteur, en descendant de son siège, était aussitôt entouré d'une foule émue. Enfin, le chef-lieu polonais, à son tour, entendit proclamer la Constitution et vit armer la garde nationale. M. Godolin secouait toujours la tête en assurant que cela finirait mal. « Que deviendra un pauvre petit employé comme moi, disait-il, quand un Metternich lui-même... » Il achevait sa phrase en levant les yeux au ciel. Certains soirs, on lui fit un charivari. Tandis que Varvara ouvrait la fenêtre pour tirer la langue au peuple, le géant, son père, se glissa sous un lit affolé par la peur. Dans la nuit, on alla chercher le médecin. Le lendemain, il mourut. Personne ne le suivit au cimetière, sa femme exceptée. Varvara prétendit n'en avoir pas la force. Aucun des collègues ni des amis du défunt ne parut aux funérailles, ni chez la veuve. Elle fut vite, ainsi que sa famille, oubliée pour ne pas dire évitée. En ces jours où l'on vit pâlir tant d'étoiles, celle des Gondolas s'éteignit tout à fait. Le baron Bromiski lui-même fit le mort. D'abord, les deux affligés le crurent à Lemberg, mais à quelque temps de là, son carrosse ayant traversé la ville, Madame Gondola put constater qu'il détournait la tête pour ne pas l'apercevoir à sa fenêtre. Il fallut en finir avec le luxe. Toutes les sources des gros revenus étaient taries. Il ne restait plus qu'une modique pension de veuve. La mère et la fille se résignèrent à de pénibles réformes qui n'étaient pas encore suffisantes, car moins d'une année après, tous les meubles étaient saisis dans le petit logement qu'elles habitaient au fond d'un faubourg. « À quoi te sert la beauté que Dieu t'a donnée ?» disait Madame Gondola, interpellant sa fille. « Soyez sûre que j'en tirerai bon parti, maman, avec l'aide d'un autre don du bon Dieu que je me pique de posséder, l'esprit. » Songe donc dans ce cas à la triste situation de ta mère. » Et Madame Gondola s'en allait avec un sanglot à demi étouffé, vaquer aux soins du ménage. Le soir, elle se délassait en tirant les cartes. Cependant, Varvara lisait des drames à haute voix. Mais quelle idée de perdre ton temps en lecture inutile et de crier de façon à faire croire aux voisins que nous nous disputons. Mais je ne suis pas femme à perdre mon temps. J'apprends des rôles parce que je compte entrer au théâtre. Toi, ma fille, une comédienne? Cela vaut mieux que d'être courtisane. Ma résolution est prise et tu sais que je ne renonce jamais à un projet. Tout sourit aux comédiennes, leur opulence égale celle des vraies princesses. » Madame Gondola se mit en colère. Depuis lors, il y eut entre ces deux femmes de violentes et continuelles discussions. Varvara fut vite à bout de patience. « Oh, j'en ai assez, » dit-elle brusquement un jour. « Je ne restais pas une heure de plus dans ce taudis. »« Mais qu'est-ce qui t'arrête ?» répliqua la mère. « Je ne te retiens pas ?»« Allez, seul, je vivrai plus tranquille. » Sans ajouter un mot, Barbara commença ses emballages. Après l'avoir laissé faire quelque temps, Madame Gondola vint regarder la petite malle qu'elle avait traînée dans le vestibule. « Mais tu ne pourras te présenter nulle part, » murmura-t-elle, « tu n'as pas de quoi te vêtir. »« Non, j'ai ce qu'il me faut. »« Tu avais des robes et tu me les cachais. »« Fallait-il les laisser prendre aux huissiers ?»« Mais nous les aurions vendues. »« Comment, tu ne partages pas tout avec ta pauvre mère qui te nourrit ?»« Ah, voilà bien les enfants, sans tendresse, sans reconnaissance. » « Écoute donc, maman, et d'abord laisse-moi rire. Je n'aurais rien du tout si je n'avais pas pris le soin de faire disparaître sous une planche de grenier deux de mes robes de soie et ton manteau de velours. »« Quoi, mon manteau ?» Madame Gondola se jeta sur la malle et tira le vêtement par un bout, tandis que sa fille le retenait par un autre. Ce fut entre ces deux mégères une querelle de chattes en fureur. Elle criait, crachait, giflait à l'envi. Enfin, la plus vieille perdit haleine. Et garde-le donc, va-t'en comme une voleuse. Tu es libre. Barbara remit le manteau dans la malle qu'elle ferma, puis elle secoua une petite bourse devant le visage de sa mère. Vois-tu, j'ai aussi de l'argent. Madame Gondola tomba évanouie. Sa fille sortit en quête de quelques moyens de transport. Après avoir longuement marchandé avec un juif qui se rendait à Lemberg, elle rentra chez elle et, appuyée contre la fenêtre, attendit le passage de la Boutka. Madame Gondola, revenue de sa syncope, était en train de chercher la bonne aventure dans les cartes. Tout à coup, elle dit d'une voix adoucie et ayant recours aux cajoleries du diminutif « Varvarushka !» « Pourquoi le théâtre ? Un beau mariage t'attend ? Oh, je le trouverai plus aisément au théâtre qu'ailleurs, » répondit Barbara d'un ton sec. Les roues de la Boutka ébranlaient déjà le passé. La longue voiture de forme orientale, couverte d'une toile et chargée de juifs pauvres des deux sexes, s'arrêta devant la porte. « Adieu !» dit la fille. « Adieu !» répondit la mère. Elles se séparèrent ainsi. Barbara, montant lentement dans le chariot, d'où s'exhalait une forte odeur d'ail, prit place entre une marchande de volailles et un boucher. Les chevaux partirent au trot. Après une course de quelques heures à travers la plaine désolée, qu'entrecoupaient à de rares intervalles quelques collines basses, un village ou un bouquet de saules, ils s'arrêtèrent devant une auberge juive où, de temps immémorial, les voyageurs pour Lemberg avaient passé la nuit. Barbara n'obtint pas de gîte sans quelque peine. Encore était-ce une mauvaise petite chambre humide au rez-de-chaussée. L'unique fenêtre qui ouvrait sur la cour était rapiécée par des morceaux de papier de toutes couleurs. Sur le lit, il n'y avait qu'une méchante paillasse et un matelas. Mais enfin, c'était une chambre. Les appartements habitables se trouvaient être retenus par des personnages de plus haute importance, dont les gens devaient loger dans des calèches qui encombraient la cour. Toute la société juive, parfumée d'ail, s'installa aussi pour la nuit sous la tente de la Boutka. Barbara s'assit devant une des tables de la salle à manger. Elle avait faim. On ne put lui offrir que des œufs, dont elle se contenta en y trempant des mouillettes de pain bis. Non loin d'elle, un jeune homme, le front appuyé sur ses deux mains, semblait dormir. Le bruit que fit un couteau en tombant l'éveilla. Il leva deux grands yeux bleus sur la jeune fille et sembla stupéfait, presque effrayé. Peut-être cette blonde image, sortie trop brusquement du brouillard de ses rêves, se mêlait-elle encore à l'un d'eux. Avec un trouble charmant, il rougit, mit la main devant ses yeux et ôta son bonnet pour saluer l'éblouissante apparition. Barbara répondit avec une négligence coquette, comme toute Polonaise de race répond au salut d'un homme. Pendant quelques minutes, ces deux êtres jeunes et beaux ne firent que se regarder, trouvant sans doute à cette mutuelle contemplation un extrême plaisir. Chaque fois que l'étranger tournait les yeux vers Barbara, elle baissait les siens, de même qu'il ne manquait pas de siffler tout bas en étudiant avec attention les peintures de la chambre chaque fois que le regard perçant de la voyageuse se posait sur lui. Il pouvait se laisser regarder sans crainte, aussi bien qu'elle-même. Grand, svelte, un peu frêle peut-être, il avait cette élégante aisance de démarche et de manière que nul ne peut apprendre et qui plaît tant aux femmes. Les traits n'étaient pas absolument réguliers, mais délicats, spirituels et toujours éclairés par un sourire vainqueur. L'entretien muet de leurs yeux fut interrompu enfin par Barbara, qui demandait à l'aubergiste une carafe d'eau. Aussitôt, l'étranger se leva et, s'approchant avec un balancement des hanches coquet, presque féminin, pria la dame de lui faire la grâce de ne pas boire cette eau, sortie d'une mare croupissante où l'on ne pouvait puiser que la fièvre. En même temps, il s'offrait à préparer du thé, ce que la jeune fille accepta gracieusement. Aussitôt, il courut chercher de l'eau, la mit sur le feu, et tandis qu'elle bouillait, sortit du gibecière des viandes froides et des confitures, auxquelles Barbara fit honneur. « Maintenant, dit le galant inconnu, pardonnez-moi une question qui risquerait de vous paraître inconvenante si je n'étais pas un homme grave, un homme marié. Vous êtes-vous pourvu de linge de lit ?»« Oh, je n'y ai pas pensé. » « Permettez-moi donc d'améliorer votre gîte de mon mieux, sans que vous ayez à vous en occuper. » Barbara resta la bouche entrouverte de surprise, ce qui de reste lui allait très bien. Un malaise vague et indéfinissable s'était emparé d'elle. « Vous êtes mariée, votre femme est-elle belle ?»« On le dit, » répliqua négligemment le jeune homme. « Et vous l'aimez par conséquent. Mon Dieu !» dit l'étranger avec un sourire, en jetant du sucre dans une tasse que lui apportait la servante. « Nous nous supportons !» Il se fit un silence, pendant lequel la porte grinça piteusement sur ses gonds, pour livrer passage à un nouvel hôte. Coiffé d'un bonnet gris, enveloppé dans son manteau de voyage, il grondait le domestique qui portait ses bagages. Répondant avec hauteur à l'humble accueil de l'aubergiste juif, il se jeta sur le vieux canapé, puis se mit à examiner ses voisins. Barbara reconnut le baron Bromirski. Il la reconnut aussi, et souleva son bonnet, mais elle n'eut pour lui qu'un regard dédaigneux. Le vieux fat parut courroucé de cette indifférence. Il se tourna brusquement vers son domestique et lui demanda sa pipe turque. « Alors vraiment, vous êtes marié ?» répéta Barbara, s'adressant à l'étranger. « Mais pourquoi ne pas vous asseoir ?» ajouta-t-elle lorsqu'elle eut remarqué qu'il restait debout comme un serviteur. Il s'inclina respectueusement et prit place en face d'elle, ce qui lui fit tourner le dos au vieux Bromirski, puis, répondant à la première question de Barbara, tendit vers elle une belle main très soignée. « Voyez mes chaînes. Oh, ces chaînes-là sont faciles à rompre, » dit-il en riant, dit en riant la jeune fille, « surtout chez nous, où les plus fidèles vivent séparés de leur seconde femme. » Et elle retira cependant de son doigt l'anneau nuptial avec un sourire à demi moqueur, le fit glisser sur le sien, puis le rendit lentement au jeune homme, qui rougit de nouveau. Ils causèrent comme causent des gens qui ne se connaissent pas. Peu leur importaient les paroles sorties de leurs lèvres. La musique de leurs voix confondues suffisait à les enivrer. L'étranger s'amusait à faire danser la flamme bleue du punch. Barbara voyait dans sa main des sucreries dont elle répandait les miettes sur la nappe. Bientôt, elle s'aperçut qu'il ramassait ses miettes pour les porter à ses lèvres, et une secrète joie l'envahit, car elle avait compris qu'elle produisait sur lui quelque impression. Interrompant ce jeu, elle passa tout à coup à un autre, qui consistait à pétrir des boulettes de mie de pain et à les lancer dans toutes les directions. Elle toucha le front du juif, qui secoua ses boucles noires en regardant autour de lui d'un air étonné. Elle tira sur le chien qui dormait sous le buffet. Elle fit sonner les vitres et inquiéta une multitude de mouches collées sur le chandelier comme des grains de raisin sec. « Et pourquoi ne me prenez-vous pas pour cible ?» demanda en riant l'étranger. Elle ne se le fit pas dire deux fois, mais lui, se dérobant à la grêle qui l'atteignait, vint saisir ses deux mains agressives. Barbara parut offensée. « Si j'ai manqué au respect que je vous dois, dit-il en reculant d'un pas, punissez votre esclave. » Elle éclata de rire et le frappa au visage d'une de ses tresses qui s'était détachée. « Oh, les magnifiques cheveux !» s'écria le jeune homme. « Mais vous ne devez pas faire de ces remarques-là, monsieur, un homme marié. »« Mais j'ai cependant le droit de baiser la verge, » dit-il, et avant qu'elle eût compris, il avait pressé la tresse blonde contre ses lèvres. Rien n'irrite davantage un homme que de passer inaperçu aux yeux d'une femme qui en même temps reçoit et encourage les hommages d'un autre. Si Barbara avait eu l'intention d'ensorceler le baron, elle n'eût pu s'y prendre mieux. Blamisky souffla quelques bouffées formidables de sa pipe turque, se leva, se promena de long en large, s'approchant de plus en plus de la table où les deux jeunes gens étaient assis, puis s'éloignant avec effroi. Enfin, il se sentit assez maître de lui pour dire à Barbara « Mademoiselle, vous semblez ne plus me reconnaître. »« Vraiment, monsieur, » répondit-elle avec un calme écrasant, « je ne sais à qui j'ai l'honneur. » « Mais rappelez vos souvenirs, un vieil ami de votre pauvre père. »« Vous vous servez d'une bien mauvaise recommandation, » interrompit Barbara. « Tous nos amis ne valent pas cela, » elle fit claquer ses doigts. « Nous avons pu les apprécier dans le malheur. Je ne mérite pas d'être confondu avec les autres, puisque j'étais à l'étranger. »« Ah oh, oui, oui, je vous reconnais maintenant, » dit Barbara. Et elle eut la malice de présenter les deux hommes l'un à l'autre. « Monsieur Marian Janowski, » dit le plus jeune. « Monsieur Marian Janowski, je vous recommande Monsieur Baruch Pintschev, qui vendait à feu mon père du sucre et du café au plus juste prix. »« Mais quelle folie !» bégaya le baron devenu tout pâle. « Je suis le baron Brominski, Lucien Brominski. »« Mon Dieu, qu'ai-je dit ?» s'écria Mademoiselle Gondola. « Oh, je me suis trompé. Mais c'est votre faute, baron. » Marianne Janowski s'en alla vaquer, comme il l'avait dit, à l'arrangement de la chambre de sa nouvelle amie, et Barbara profita de son absence pour interroger le juif sur lui. Elle ne se gênait pas nullement devant Bromirski, de plus en plus irrité. Elle apprit donc, par le juif, qu'est-ce que les juifs ne savent pas? Que Marian Janowski était le fils d'un propriétaire du cercle de Przemysl, que son père ne lui avait laissé que beaucoup de dettes, que son village venait d'être vendu par autorité de justice et qu'il s'en allait à Lemberg chercher un emploi. Quel malheur, pensait cette jeune fille pratique, tandis que le baron s'efforçait d'engager la conversation. Marianne lui plaisait plus qu'aucun autre qu'elle eût encore rencontré. Elle se sentait le pouvoir de le rendre amoureux quand bon lui semblerait. Mais Qu'en adviendrait-il? Un homme marié, elle serait donc sa maîtresse, la maîtresse d'un gueux, fi donc. L'obstacle était là. Une fois mariée elle-même, elle n'aurait certes pas d'autre galant, mais où trouver le mari? Son regard tomba sur Bromilski, et ce regard décida du sort du vieux roué. Une pensée en fait naître une autre. La fantaisie de Varvara se transformait en projet. Projet romanesque peut-être, mais sans mélange d'imprudence. Et le projet devait être exécuté sur le champ, il n'y avait pas de temps à perdre. Marianne vint avertir Varvara que tout était prêt chez elle. En effet, il avait ajouté au matelas les coussins de sa voiture et jeté sur le plancher son propre manteau en guise de tapis. Le baron offrit son bras à Mademoiselle Gondola, mais elle le refusa froidement, en alléguant que Marianne Janowski avait été le premier à se mettre à ses ordres, ce qui n'empêcha pas Bromilski de monter l'escalier derrière elle en sautillant. Il fallut, pour le forcer à se retirer, que Varvara lui ferma la porte au nez d'un mouvement si brusque qu'il porta instinctivement la main à cette partie de son visage. S'étant assuré qu'elle était saine et sauve, Bromilski soupira, se frappa trois fois le front et retourna dans la salle pour charger de nouveau sa pipe. Varvara regardait autour d'elle. « Êtes-vous contente ?» demanda Marianne. « Mais vous vous êtes privée de tout pour me donner le superflu, » dit-elle avec vivacité. « Laissez-moi voir s'il vous reste le nécessaire. » Elle saisit la lumière et se fit montrer la chambre du jeune homme, située plus loin, dans le même corridor, mais donnant sur la route. « Mais qu'est-ce que je disais? Vous n'avez plus d'oreiller. » « Une bonne conscience suffit, mademoiselle. Mais plus de couverture. Je m'envelopperai dans mes espérances. » Mais qu'espérez-vous donc? Oh, une place pour ne pas mourir de faim. Oui, dans l'avenir, mais tout de suite. Marianne baissa les yeux en souriant. Que voulez-vous? Un pauvre diable de ma sorte doit se contenter du pain quotidien. Mais vous m'avez paru cependant à table aimer rasser les sucreries. Elles ne sont pas faites pour moi. Il y a tant de choses plus douces auxquelles je ne puis aspirer. C'est que vous manquez de courage. Le courage risque parfois de ressembler à l'insolence. Votre langage est celui d'un homme d'honneur, mais si je vous disais... Elle avait éteint la lumière, et Marianne sentit deux lèvres brûlantes contre les siennes et dans ses bras un corps frémissant. Varvara sortit de la chambre de Marianne en marchant avec précaution sur la pointe des pieds. Arrivée devant sa propre chambre, elle respira, déposa sur le seuil la chandelle éteinte qu'elle tenait et descendit dans la cour pour demander des allumettes aux Juifs. Comme il faisait nuit, elle n'avançait qu'à tâtons. Dans toutes les voitures ronflaient des nez invisibles, formant un concert étrange qui rappelait un peu l'ouverture du Tannhauser. Tout à coup, un petit cercle de feu illumina le visage bouffi et la brillante perruque noire du baron. Varvara put remarquer que ce vieux drôle se penchait tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, pour regarder dans les voitures transformées en dortoirs, quand il ne s'accroupissait pas pour surprendre par les fenêtres basses éclairées au-dedans les secrets de toilette d'une Suzanne quelconque. « Monsieur le baron, dit-elle tout haut, je vous prierai de me donner de la lumière. »« Comment, vous ici, mademoiselle? Je vous croyais endormie. » Il a pensé à Varvara, déjà regardée par ma fenêtre. Le baron tira son briquet de sa poche et lui remit ce qu'elle demandait. « Cela vous suffit? Tout à fait. »« Alors, je peux baiser aussi la petite main, toutes les deux, si vous voulez. » Il la regarda s'éloigner. « Quelle charmante créature, elle pourrait embellir ma vie. Ah, si ce Frohuquet n'était pas ici, il me semble pas lui déplaire, quoiqu'il n'ait pas le sou. Cette petite personne-là, pourtant, aime les belles robes, oh, les pelisses de fourrure, les diamants. » La méditation du baron fut interrompue par la lumière qui brilla soudain à la fenêtre de Varvara, dont on avait négligé, non sans intention peut-être, de fermer les rideaux. L'artificieuse fille posa son miroir à côté de la chandelle sur une petite table et procéda lentement à se déshabiller, dénouant d'abord ses lourds cheveux et y promenant ses doigts avec complaisance, puis détachant sa robe qu'elle posa sur une chaise, après quoi elle fit voir par le mouvement le plus naturel ses épaules virginales et se mit à tresser légèrement les ondes d'or qui avaient enveloppé jusque-là sa poitrine. Bromisky suivait tous ses mouvements et il sentait se serrer de plus en plus les cordes qui le liaient pour jamais. Tandis que Varvara procédait à se déchausser, on frappa doucement à la porte. Elle jeta un châle autour d'elle et demanda « Qui est là ? Moi ? Mais qui vous ? Moi, belle Varvara. Vous, Marianne, quelle audace ! Non, c'est pas ce petit bête, mademoiselle, mais bien votre vieil ami Bromisky. Ouvrez. Mais pourquoi ? J'ai à vous parler de choses importantes. Attendez jusqu'à demain. Varvara, je suis pas un galant à poche vide, moi. Je suis riche, très riche. Tous vos désirs, je vous le jure, seront comblés. Ne me repoussez pas. Ah, ma mère avait bien raison de me prémunir contre vous, de dire que vous étiez un homme dangereux. Mais je saurais défendre mon honneur. » En même temps, elle tirait le verrou si doucement que Bromisky put croire que la porte cédait à ses assauts redoublés. Le lendemain, de grand matin, sans être aperçu de Marianne ni de personne, sauf l'hôtelier juif, Varvara monta dans le carrosse du baron, qui la ramena chez sa mère. Elle était pâle et grave, mais sur ses lèvres serrées, on lisait la satiété du triomphe. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Madame Gondola, celle-ci ne témoigna ni mécontentement ni plaisir. Une extrême surprise se peignit seule sur ses traits. « Mais tu n'entres donc pas au théâtre ?» dit-elle, tandis que la jeune fille ôtait ses gants et son chapeau. « Oh, le monde est un grand théâtre, » répondit Varvara, « et j'ai toutes les facilités pour y jouer très bien mon rôle. »